Le débat du jour. Romain Ozoui.
Je ne sais même pas passer la balle avec Véronique Rigolet, mais j'allais dire qu'on allait parler de politique française.
Et je vous souhaite une très belle émission.
Dans le débat. Merci beaucoup, Véronique. Le torchon brûle au sein de la gauche, à tel point que l'Alliance, qui est représentée à l'Assemblée nationale française, cette Alliance semble au bord de l'implosion. Ce mercredi, la France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, a écrit dans un communiqué, je cite, « Si des députés socialistes devaient refuser à nouveau la censure du gouvernement de François Bayrou, comme ils l'ont fait la semaine dernière, eh bien ils romperaient définitivement avec le nouveau Front populaire. Notre question ce soir, l'avenir de la gauche s'écrit-il sans la France insoumise ? Lestée par de multiples polémiques, est-ce que LFI est devenu un boulet ? Et dès lors, s'en émanciper peut-il permettre de créer une social-démocratie crédible en vue de la présidentielle de 2027 ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités à mes côtés en studio, Frédéric Savicky, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Face à vous, Adrien Broche, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable des études politiques à l'Institut Via Voice, auteur d'un livre qui paraît dans deux jours, vendredi, intitulé « Portrait moderne de la gauche française, débat d'idées des années 2010 à nos jours ». Merci beaucoup à vous deux, tout d'abord, d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Frédéric Savicky, à quel point, selon vous, le divorce de la gauche avec LFI est-il acté ? Donc, il y a eu le communiqué du jour que j'ai cité. Précédemment, il y a eu de nombreuses prises de position qui se sont multipliées, j'en cite deux. Côté LFI, Jean-Luc Mélenchon qui a dit que le PS n'était plus un partenaire. Et puis, côté PS, eh bien François Hollande qui a dit dimanche, en 2027, il faudrait deux offres à gauche, l'une réformiste, l'autre radicale.
Alors, c'est pas le divorce de la gauche avec les LFI, c'est le divorce potentiel au sein de la gauche entre LFI et le Parti socialiste, ou en tout cas une partie en ce moment la plus brillante du Parti socialiste, celle qui est ouvertement effectivement en opposition avec l'idée d'une alliance durable avec LFI. Et puis au milieu, si on peut dire, presque à équidistance, les écologistes, dont on a pu constater qu'ils avaient voté la censure, mais qui néanmoins restaient quand même dans une démarche de négociation avec le gouvernement et de souci de ne pas trop être assimilés au camp LFI. Et puis les communistes un peu également sur la même ligne.
Il n'y a pas de bloc, selon vous. Il n'y a pas LFI d'un côté, les autres de
gauche. Non,
de
pour l'instant, il n'y a pas de bloc. Il y a une division qui n'est pas simplement entre deux blocs, mais qui traverse aussi un peu les blocs. Alors, pas le bloc LFI, mais en tout cas le bloc socialiste, le bloc écologiste. Et puis, aussi, un élément qui me semble important de rappeler, c'est qu'on dramatise beaucoup le non-vote, en quelque sorte, des socialistes de la censure au gouvernement, mais on est dans une phase où il va y avoir d'autres échéances assez rapidement importantes, notamment sur la discussion budgétaire. Et là, on ne sait pas encore bien ce que les socialistes, les députés socialistes, et éventuellement la direction du Parti socialiste va faire en fonction de la traduction ou pas des engagements pris par François Bayrou à leur égard dans le budget. Alors, les déclarations de ces derniers jours de divers ministres laissent plutôt planer l'idée que ça risque d'être quand même compliqué entre les déclarations générales, les promesses de François Bayrou et puis leur traduction budgétaire. Il y a un vrai gap.
Ça va être compliqué,
ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, disons, de faire, de traduire les engagements de François Bayrou dans des engagements budgétaires précis qui satisfont les attentes, les exigences même du Parti socialiste.
Il évite une censure de toute la gauche.
Voilà. Donc, disons qu'à court terme, gloser sur une espèce d'éclatement de disparition de l'alliance me semble un peu prématuré.
On n'en est pas là.
Même si, évidemment, j'allais dire, sur le fond, sur le plus long terme, il est clair que on a un affrontement qui ne date pas de ces jours-ci entre LFI d'un côté et les socialistes de l'autre, à propos du leadership à gauche, qui n'est pas tranché. François Hollande revient aujourd'hui par la fenêtre, aussi parce que LFI n'a pas été capable de s'imposer finalement comme la force dominante à gauche, en dépit des succès réels de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022. Bon, il s'est passé d'autres élections depuis qui ont rééquilibré les forces, et donc les choses sont ouvertes. Mmh. Et c'est bien pour ça, évidemment, qu'il y a des tensions qui sont activées aussi par la perspective de l'élection présidentielle, mais aussi des élections municipales à venir l'année prochaine.
Et il s'est passé beaucoup de choses depuis les 21,95%, qui était quand même un gros score, effectivement, de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle de 2022. Il s'est passé beaucoup de choses aussi qui a lesté, je parlais des polémiques, les prises de position concernant le Hamas, beaucoup de choses qui ont ostracisé
la France retraites insoumise. Aussi, il faut le rappeler, voilà.
Adrien Broche, est-ce que vous partagez la même analyse que Frédéric Savicky, parce que effectivement, on peut dire que les écologistes et les communistes ont voté la censure majoritairement, comme LFI l'a fait, mais en même temps, les écologistes et les communistes, aux côtés des partis du Parti Socialiste, qui eux n'ont pas voté la censure, le PS, ont participé à des discussions avec le gouvernement. C'est pour ça que je pose la question de est-ce qu'on n'a pas LFI d'un côté, et malgré tout, une gauche... entre guillemets, peut-être futur réformiste, on va parler de ce concept de gauche réformiste, qui est en train de se créer, PS, écologiste, communiste.
Réformiste, effectivement, je ne sais pas. En tout cas, sur la question de la discussion, on a eu effectivement un pôle à gauche plutôt ouvert à la discussion, et là, on peut effectivement y inclure le Parti communiste, les Verts et le Parti socialiste, contre une gauche fermée à la discussion a priori, et là on a LFI. Donc là on a deux blocs, je me méfie toujours des oppositions un petit peu binaires, parce que comme l'a très bien rappelé Frédéric Savicky, même à l'intérieur du Parti Socialiste, il y a une opposition, ouais. Non pas tellement d'ailleurs sur est-ce qu'il faut rester proche de LFI ou éloigné, mais est-ce qu'il faut faire un pas vers le gouvernement ou ne pas le faire. C'est un petit peu comme ça, je crois, que ça se structure. Et il y a une opposition interne au Parti Socialiste, pas forcément au sein de l'Assemblée Nationale, du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale, mais plus largement dans l'organisation du parti, sur ce pas qui a été fait. Et cette, non pas cette main tendue, mais disons cette entrée en discussion avec le gouvernement. Et d'une certaine manière d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un peu médiatiquement comme ça l'aile droite du Parti Socialiste qui a gagné cette bataille, puisque Olivier Faure, qui était lui plutôt sur cette ligne unioniste et à laquelle il tenait férocement depuis 2022, qui a dû finalement adopter cette grammaire-là, qui était plutôt la grammaire des anti-NUPES au sein du Parti Socialiste, ouais. Et maintenant des anti-NFP. Donc il s'est fait le porte-parole d'une partie du Parti Socialiste qui s'oppose férocement à lui depuis deux ans, hein, menée par Carole Delga, notamment François Hollande, encore avant d'être élu, même si c'est encore le cas aujourd'hui. Donc il est un peu pris, et puis surtout qu'il y a un congrès qui arrive bientôt, il est un peu pris aussi dans cette contradiction, à la fois celle de tenir ce qui a fait lui sa raison d'être depuis 2022. Il est sur une ligne de crête, Olivier Faure, où il essaye de tenir l'autonomie du Parti Socialiste tout en conservant un certain nombre de sièges. On va sûrement y venir, mais c'est quand même ça derrière la question qui se joue, puisqu'il n'y a même pas d'intergroupe aujourd'hui à l'Assemblée Nouveau Front Populaire. Donc on est vraiment dans une coalition électorale. Donc qu'est-ce que ça veut dire, en fait, qu'une rupture dans une coalition électorale, ça veut simplement dire on fait le croix sur des unions dès le premier tour, quoi. Donc voilà un peu ces oppositions internes.
Pour nos auditeurs, finalement, ça représente quoi? Quel poids aujourd'hui au sein du Parti Socialiste, mais au sein, encore une fois, des écologistes aussi, des communistes, ceux qui sont d'accord pour discuter avec le gouvernement?
Quel poids? Je ne sais pas si vous avez une idée.
Je pense que sur la discussion avec le gouvernement, c'est majoritaire. C'est-à-dire que beaucoup de députés socialistes, y compris parmi ceux qui étaient réticents à l'idée de ne pas voter la censure, étaient favorables à ce qu'on essaye d'éviter un blocage institutionnel. Parce que c'est ça que ça veut dire.
Il y avait cet enjeu.
C'est ça l'opposition fondamentale avec LFI et avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que Jean-Luc Mélenchon, au fond, poussait à refuser toute forme de discussion avec François Bayrou pour forcer finalement à terme Emmanuel Macron à démissionner parce que faire tomber de nouveau le gouvernement de Bayrou après celui de Barnier, ça voulait dire évidemment qu'il n'y avait pas d'issue et de gouvernement possible et imaginable. Donc au fond, il y avait une espèce d'alliance objective attendue d'un d'une convergence entre le Rassemblement national et gauche pour faire tomber le gouvernement. Donc ça, je pense que beaucoup de socialistes ont bien vu à quel point c'était très aléatoire et surtout extrêmement risqué parce que, et ça les enquêtes de sondage le confirment, mais aussi les témoignages que les militants, les élus socialistes, et pas seulement que socialistes, communistes, écologistes, ressentent de la population, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas prendre le risque d'une France qui n'ait pas de budget, qui soit contrainte finalement de vivre d'expédients. Et voilà, il y a un effet un peu anxiogène de cette situation politique. Donc là-dessus, il y avait accord. Après, là où, évidemment, il peut y avoir des désaccords, c'est jusqu'à quel point on accepte, finalement, de ne pas censurer un gouvernement qui ne ferait pas d'efforts significatifs pour élargir la majorité. De ce point de vue-là, les écologistes, par exemple, ont fort logiquement censuré le gouvernement parce que François Bayrou, à tort ou à raison, je pense que peut-être à tort, n'a pas fait les efforts ou les gestes suffisants en direction des écologistes. Il a refusé de continuer une politique de transition énergétique significative. Il a donné quitus aux revendications de la FNSEA en endossant les critiques à l'égard de l'Office français de la biodiversité, ce qui est quand même très bizarre de la part d'un ministre, d'un premier ministre, puisqu'il s'agit d'une administration. Bref, voilà. Est-ce qu'il y aura des avancées là-dessus? Voilà, tout va dépendre ensuite, effectivement, des capacités de François Bayrou à suffisamment faire de concessions.
Après, LFI ne va pas bouger sur sa ligne.
LFI ne bougera pas, de toute façon.
D'où ma question, Adrien Broche, à quoi elle tient cette alliance encore du NFO Front Populaire? Déjà, quand on a au sein de cette alliance deux partis, l'un qui vote la censure, LFI, et un autre qui ne la vote pas, le Parti Socialiste.
Mais cette alliance, qui est encore une fois une alliance électorale, tenait pour moi une seule corde, qui était le risque du Rassemblement National au pouvoir. Je crois qu'il faut vraiment remonter à ça, au cœur de l'été, c'est-à-dire une alliance des gauches assez traditionnelle dans l'histoire. C'est pour ça que je pense qu'il faut être très très prudent sur les constats définitifs sur la rupture est consommée, etc. On voit qu'il peut toujours se passer conjoncturellement, selon les aléas politiques et électoraux, des éléments qui font que les gauches trouveront matière, pas à se réconcilier sur le fond, mais en tout cas à s'allier le temps d'un...
C'était d'ailleurs le calcul qu'avait fait Emmanuel Macron en décidant de dissoudre. Il pensait que la gauche serait incapable de s'unir, notamment après les divisions consécutives.
Est-ce que le PS a intérêt aujourd'hui à rompre avec LFI?
Le PS, pour moi, c'est ma lecture. Il n'y a pas 1000 solutions en réalité, et il n'y a ni bonne ni mauvaise solution. C'est-à-dire que dans la situation, vous l'avez rappelé, qui est celle du rapport de force actuel. 2022, Jean-Luc Mélenchon fait en gros 22%, Anne Hidalgo fait un peu moins de 2%. Le rapport de force, il est comme tel. Donc après, on peut ergoter autant qu'on veut sur la nécessité du compromis, etc. Il se trouve que la ligne, en tout cas à gauche, a été tranchée par les urnes en 2022, et celle de Jean-Luc Mélenchon, par la qualité de sa campagne, visiblement, et de ses arguments, a convaincu bien plus largement que celle d'Anne Hidalgo. Donc le Parti Socialiste a, pour moi, est face à un dilemme qui est sauver, j'allais dire, si tant est qu'il faille le formuler comme ça, une forme de dignité morale à ne plus s'allier avec la France Insoumise, sur tous les sujets de fracture qu'on a énumérés ces derniers mois et ces dernières années. Mais consommer cette rupture-là, ça veut dire faire la croix sur des accords électoraux et donc potentiellement admettre, non pas une mort, mais peut-être un sommeil à court terme dans les échéances électorales qui arrivent. Soit acter non pas de liens encore qui doivent être établis avec la France Insoumise, mais qui doivent être conservés, non pas positivement, c'est-à-dire pour faire alliance, mais contre quelque chose d'autre. Et dans ce cas-là, ça veut dire effectivement plus de perspectives à court terme électorales, puisqu'il continuerait d'y avoir des alliances électorales, mais en revanche, un magistère intellectuel qui serait un petit peu affaibli, puisque Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'a pas réussi à convaincre en totalité à gauche et dans le pays, demeure encore la force majoritaire et la force d'impulsion, j'allais dire, l'autorité morale quasiment aujourd'hui dans la gauche politique.
Mais que reste-t-il aujourd'hui des 21,95% des voix de Jean-Luc Mélenchon?
Mais peut-être qu'il en reste
à LFI beaucoup.
Peut-être qu'il en reste beaucoup plus qu'on ne le pense. Ouais. Et je pense qu'il faut là aussi être très prudent, de la même manière, il faut être très prudent sur les annonces de mort des unions de la gauche. sur la mort idéologique de Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il aura toujours une capacité, pour plein de raisons, à fédérer encore, d'autant qu'il a des stratégies, on le voit très bien tactiquement, où il est dans une radicalité assez globale pendant un certain nombre de mois. Puis plus les élections arrivent, plus il se recentre et il arrive à parler des astres de Jean Jaurès et d'alignement des planètes. Donc il a cette force-là, et c'est pour ça que je pense qu'il faut être très prudent aussi sur ses calculs de mort du Mélenchon.
C'est la question que j'avais posée à Frédéric Savicki. Vous êtes d'accord, est-ce que la France insoumise n'est pas morte?
D'abord, on a eu un test.
Est-ce que le PS a intérêt à rompre? Est-ce que ça peut doper la gauche?
On a quand même eu un test intéressant qui ont été les élections européennes de juin dernier, enfin 2024, hein, où on a pu mesurer évidemment que la France insoumise n'était pas capable de remobiliser les 20 ou 22% d'électeurs, mais néanmoins quand même 10%, ce qui est quand même
en dessous. De Raphaël Glucksmann qui était
légèrement en dessous, oui, effectivement, à 13%, parce que ça s'est aussi traduit par le fait que Raphaël Glucksmann a notamment, on va dire, siphonné l'électorat écologiste beaucoup plus que l'électorat insoumis.
Est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'opinion de gauche, c'est celle-ci, c'est Raphaël Glucksmann qui reprend davantage de courant socialiste devant la France insoumise?
Bon, je pense que c'est très compliqué à dire. La principale faiblesse, on pourrait dire aujourd'hui, de ce camp socialiste, social-démocrate, voire même écologiste, c'est qu'il n'y a pas de figure qui s'imposerait comme le leadership naturel. François Hollande essaye de jouer ce rôle, mais avec évidemment bien des réticences eu égard à au bilan de son quinquennat. Mais en dehors de ça, bon, voilà, on ne peut pas dire que tel ou tel leader s'imposerait naturellement. Je pense que Raphaël Glucksmann a fait un bon score aux élections européennes, mais que pour autant, il n'est pas un personnage politique majeur, et les socialistes ne sont pas prêts à, en quelque sorte, lui reconnaître un leadership au-delà de cette élection européenne. Donc, pour revenir rapidement sur l'élection européenne, bon, voilà, 10%, 10%, c'est quand même important, surtout quand on regarde la géographie de ces électeurs et leurs caractéristiques sociologiques. Le LFI séduit dans les quartiers, comme on dit, c'est-à-dire des populations issues de l'immigration, victimes de discrimination.
C'est toujours le cas, selon vous?
Oui, largement.
Parce
même
que c'était
si
majoritairement
elle,
le cas
même
en
si
2022,
ces catégories-là votent moins à des élections comme des élections européennes, mais à des élections présidentielles, non, elles votent davantage. Et puis, on va dire, moi, ce que j'appelle les professions intellectuelles victimes de formes de déclassement, c'est-à-dire des gens qui ont des niveaux de diplôme relativement de diplômes supérieurs, des licences, des masters, et qui ont des jobs mal payés ou insuffisamment reconnus. Bon, le monde enseignant est un bel exemple, les professions médicales, infirmières et autres. Et ces gens-là, effectivement, se reconnaissent dans un discours beaucoup plus, on va dire, radical, dans la forme qui est celle de la France insoumise. Et les socialistes, comme les écologistes, ont du mal à s'ancrer dans ces milieux-là. Et ce sont des électeurs de gauche indispensables pour imaginer, sinon gagner une élection présidentielle ou récupérer une majorité à l'Assemblée, mais surtout passer éventuellement le cap du premier tour de l'élection présidentielle.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
L'avenir de la gauche française s'écrit-il sans la France insoumise? La question qu'on pose ce soir, non, vous nous dites finalement qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui le niveau de la France insoumise. C'est ce que vous nous citiez à l'instant, Frédéric Savicki, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Adrien Broche, deuxième invité, responsable des études politiques à l'Institut Via Voice. On en parle évidemment d'autant plus que ce mercredi, la France insoumise, mouvement de Jean-Luc Mélenchon, rappelons-le, a écrit dans un communiqué que si les députés socialistes devaient à nouveau refuser de censurer le gouvernement de François Bayrou, comme ils l'ont fait la semaine dernière, eh bien ils romperaient définitivement avec le nouveau Front Populaire. Vous nous dites, vous deux, que la rupture finalement n'est clairement pas à l'ordre du jour. Dès lors, comment élargir, parce que c'est la question que j'aurais évoquée dans la deuxième partie du débat, comment élargir l'impact de la gauche française aujourd'hui, comment élargir la gauche française tout court pour qu'elle elle ait davantage d'impact. Je vais citer Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle 2022, qui évoquait un pacte républicain transitoire entre le nouveau Front Populaire et le Bloc central, Donc ça fait écho un petit peu à ce que disait Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, issu de la Macronie, qui appelle à élargir le socle commun. Qu'en pensez-vous, Adrien Broche? Est-ce qu'effectivement ça peut être un point positif pour l'expansion de la gauche? Ou est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi en vue de 2027, parce que là évidemment on se projette sur 2027, la présidentielle, de se faire damer le pion pour la gauche par le candidat issu de la Macronie, en tout cas du bloc central, qui se présentera?
Ouais, vous avez raison, je crois, de présenter les choses comme ça. Et d'abord, par rapport à ce que disait Frédéric Savicky sur effectivement la stagnation, malgré tout, du Parti Socialiste. Alors, pas forcément du Parti Socialiste, mais en tout cas de la gauche non mélenchoniste. C'est-à-dire qu'en 2019, aux européennes, les Verts font 13, le PS fait 6. En 2024, le PS fait 13 et les Verts font 6. Donc, on a simplement le même socle, avec à peu près la même sociologie électorale, mais une inversion. Par le fait que Raphaël Glucksmann a effectivement siphonné une partie de l'électorat vert davantage encore qu'il n'a convaincu une partie de la gauche plus radicale. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut replacer ça et ne pas surestimer la puissance de feu du score de Raphaël Glucksmann qui a fait la campagne qu'il a faite avec le mérite, et je trouve que cette campagne était particulièrement intéressante sur le rapport à l'antitotalitarisme à gauche. On avait une espèce de reconstitution comme ça d'un vieux clivage qui n'est pas tout à fait le clivage réformiste révolutionnaire, qui est un petit peu un autre, et c'était très intéressant. Mais on part quand même de là, c'est-à-dire d'une candidature d'Anne Hidalgo qui a fait 1,7 en 2022 et d'une bonne campagne de Raphaël Glucksmann, mais qui n'a fait que en gros stagner sur la gauche non mélenchoniste. À partir de là, effectivement, l'avenir du Parti Socialiste, bon, moi je vois ça comme un calcul soit à court, soit à long terme. Maintenant, c'est de voir de quel côté, effectivement, il faut s'ouvrir. Il est certain que si Jean-Luc Mélenchon est le candidat de gauche qui fait 22% à une élection présidentielle, il y a une masse électorale à aller chercher de ce côté-là. Maintenant, à quel prix, à partir du moment où le Parti Socialiste, et là on en vient plutôt aux fractures de fond, s'est opposé et s'est distingué de manière assez formelle de la France insoumise sur un certain nombre de sujets cruciaux, comme effectivement le rapport à l'antisémitisme et le rapport à la violence, je pense, à ce qui s'est passé et à la guerre des gauches qui s'est ouverte après le 7 octobre. Donc, de quel côté faudra-t-il ouvrir? Est-ce qu'au final, il y a plus de points communs? C'est toute la discussion, je crois, de fond, de plus de points communs avec le bloc central, de rupture, de différence de degré, là où il y a des différences de nature vis-à-vis de la France insoumise. C'est, je crois, l'arbitrage qui devra être fait côté Parti Socialiste. Encore une fois, je pense plutôt sur une dynamique de long terme, parce qu'à partir du moment, si rupture il y a aujourd'hui, que les socialistes ne censurent pas le gouvernement à l'occasion du vote du budget, qu'il n'y a pas d'accords électoraux, Le Parti Socialiste, de facto, étant tributaire de circonscriptions qui sont beaucoup plus difficiles que celles de la France Insoumise, il peut disparaître dans un certain nombre de circonscriptions en France.
Frédéric Savicky, est-ce qu'il y a la place en 2027 pour une gauche réformiste qui pourrait récupérer tous les déçus de gauche du macronisme? Ça rappelle le profil un peu d'Emmanuel Macron en 2017?
Tout à fait.
Et qui pour l'incarner?
Oui, je pense que la différence, en quelque sorte, entre LFI et le Parti Socialiste, du point de vue, on va dire, de la stratégie électorale, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire à qui il faut s'adresser en priorité. Hein. Du côté du Parti Socialiste, vous avez pas mal de gens autour de François Hollande et de la droite du parti qui disent, au fond, si on veut, sinon... gagner, mais en tout cas espérer gagner et retrouver le lustre d'antan, il faut essayer de récupérer les électeurs de centre-gauche qui sont allés chez Macron. Hein, c'est-à-dire ceux qui, encore en 2022, ont préféré entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, finalement, choisir Emmanuel Macron pour son profil, on va dire, européen, pour son profil plus modéré, réformiste,
libéral,
voilà, le sens du terme, libéral. Bon. Donc, c'est là, au fond, qu'on doit, finalement, chercher des marges pour reconstituer, en quelque sorte. Du côté de la France insoumise, Alors, en 2017,
c'est un créneau porteur,
en 2017, en 2017 la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, c'était les fâcheux, les fâchés pas fachos, hein, c'est-à-dire aller récupérer des gens qui votent RN, FN à l'époque. Et bon, là, ils ont renoncé. L'idée maintenant, c'est de dire, bon, il y a une masse d'abstentionnistes très importante chez les jeunes en particulier, dans les quartiers populaires des grandes villes. Et c'est là qu'il y a, en quelque sorte, un réservoir qui serait de nature à permettre de passer le cap du premier tour de l'élection présidentielle. Bon, et donc évidemment, on voit bien que c'est pas du tout la même stratégie. Et au milieu, vous avez des gens comme Olivier Faure qui essayent en quelque sorte de tenir une espèce de ligne de crête assez compliquée. C'est-à-dire, il faut essayer de parler aux deux. Bon, mais à terme, on voit bien que ça ne peut que, pourrait dire, clasher d'une certaine façon, parce que
ça va clasher au sein du PS.
Ça va clasher au sein du PS et au sein effectivement de la gauche.
Alors, parce que permettez-moi de me poser la question qui suit. Ça annonce quoi pour le congrès Adrien Broche l'a évoqué, qui est prévu avant l'été. Il doit être annoncé précisément d'ici la fin du mois et qui est présenté, ce congrès du Parti Socialiste. Certains le présentent comme un épiné 2. En référence au fameux congrès de 1971.
C'est ce que souhaite François Hollande, mais à mon avis, il aurait très peu de chances de réussir, c'est de vouloir rassembler tous ceux qui ont quitté le Parti Socialiste au cours de ces dernières années, c'est-à-dire aussi bien à gauche, par exemple Benoît Hamon, que on va dire à droite, Cazeneuve, et puis récupérer en quelque sorte place publique. Je ne suis pas certain que la majorité des militants soit favorable à une telle option aujourd'hui. En revanche, pour ceux qui s'étaient opposés à Olivier Faure au dernier congrès du Parti Socialiste en critiquant un trop grand alignement sur la France Insoumise, ils risquent d'être un peu privés d'argumentaire parce qu'évidemment l'évolution des choses récentes finalement remet un peu Olivier Faure au centre. Le vrai clivage au fond, c'est est-ce que le Parti Socialiste est prêt à soutenir, à travers notamment une élection primaire ou un autre dispositif, une candidature unique de la gauche. Est-ce qu'ils y croient encore? Est-ce qu'il faut tout faire, quitte à renoncer à présenter un candidat socialiste ou une candidate socialiste dûment labellisée à cette élection? Ou est-ce que, là c'est la ligne que défend François Hollande et qui risque d'avoir du soutien de certains militants, assumer le fait qu'il faudra un candidat socialiste pur jus, si j'ose dire, ouvertement, alors dans leurs mots social-démocrate, dans le mot de leurs adversaires social-libéral, qui incarne le parti, quitte à aller au combat avec Jean-Luc Mélenchon. C'est ça, à mon avis, le vrai point de clivage aujourd'hui.
Ah bah ça fait écho, et je vais conclure là-dessus, sur ce qu'a dit François Hollande précisément, que vous avez cité, dans une interview à la Tribune dimanche. En 2027, il faudrait deux offres à gauche, l'une réformiste et l'autre radicale. Et donc, non, l'avenir de la gauche ne s'écrit pas forcément sans la France insoumise, si je dois répondre à la question en votre nom, à vous deux messieurs. Merci beaucoup Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et Adrien Broche, responsable des études politiques à l'Institut Via Voice, auteur de ce livre qui paraît vendredi. Dit Portrait moderne de la gauche française, débat d'idées des années 2010 à nos jours. Merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat. On revient demain. Je lance le débat de demain. La guerre des sexes est-elle relancée? Suspense et réponse à suivre demain. À suivre également le grand journal du soir. Ce sera dans un peu plus d'une minute sur Radio France Internationale. Il sera alors 19h ici à Paris. Dossier consacré à la deuxième journée. C'est déjà passé beaucoup de choses aux États-Unis de la présidence Donald Trump. Et puis après le grand journal du soir, après RFI soir, ce sera l'heure d'Afrique soir. La première édition. Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Romain.
Allez, quel programme ce soir?
Rokia Traoré, libérée dans la soirée. La chanteuse malienne est incarcérée depuis fin novembre à Bruxelles. Mais un accord a été trouvé avec son ex-conjoint sur la garde de leur enfant qui se trouve au Mali. C'est ce qu'annoncent ce soir les avocats des deux parties. Rokia Traoré, hein, qui avait été lauréate du prix RFI Découverte en 1997. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, annonce la création d'une force de 5000 hommes pour lutter contre les groupes djihadistes. L'AES, vous le savez, qui regroupe à la fois le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La Kourawa, c'est le nom d'un groupe djihadiste. On va s'y intéresser ce soir dans le dossier d'Afrique Soir. Une ex-milice d'autodéfense qui sème la terreur au Nigeria et au Niger. Et puis, les combats dans l'est de la RDC, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, poursuivent leur avancée. Depuis le début de la semaine, les affrontements avec l'armée congolaise ont débordé de la province du Nord Kivu vers le Sud Kivu.
On vous retrouve dans 30